From Salt Lake City, Utah, this is the Sunday
depuis Salt Lake City en Utah. Voici la session du dimanche après-midi de la 199e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le Tabernacle Choir at Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters,
frères et sœurs,
we welcome you.
Nous vous souhaitons la bienvenue à la dernière session de la 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous avons été grandement bénis de participer à la célébration du bicentenaire de la première vision et du rétablissement. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le Tabernacle Choir at Temple Square, sous la direction de divers directeurs et organistes. Comme indiqué dans les autres sessions, la musique a préalablement été enregistrée. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Au grand prophète ». Kevin Duncan, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
our beloved Father, which art in heaven.
Notre cher Père céleste, en ce dimanche, nous courbons la tête, nous élevons nos voix pour te louer, ton Fils Jésus-Christ. Père, nous te supplions que ton esprit sera déversé sur le monde entier pour que tout le monde puisse voir le pouvoir d'un Dieu vrai et vivant. Nous prions pendant cette semaine, pendant que nous allons prier et jeûner, que nous exercerons notre foi en toi et en le pouvoir guérisseur de Jésus-Christ pour que nous soyons guéris. Nous anticipons les fruits du rétablissement avec de la joie dans le cœur. Veuille nous fortifier pour que nous comprenions et que nous appliquions les enseignements de Jésus-Christ tels qu'ils se trouvent dans le livre de Mormon et les autres Écritures. Aide-nous avec le pouvoir de la prêtrise à aller de l'avant avec foi. Et nous soyons bénis. Nous te remercions pour les paroles, les enseignements des prophètes vivants et plus particulièrement pour le rétablissement et les alliances sacrées qui lient nos familles du passé, du présent et de l'avenir à toi. Père, nous t'aimons. Nous savons que tu veilles sur nous. Nous aimons notre frère et notre sauveur rédempteur Jésus-Christ. Aide-nous à retourner en ta présence et à lui, au nom sacré et saint de Jésus-Christ. Amen.
The choir will now favor us.
Vous allez maintenant interpréter du grand millénium. Après ce cantique, nous entendrons Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence. Il sera suivi de Quentin Cook, du Collège des Douze Apôtres, et de Ricardo Jiménez, des 70.
Mes frères et sœurs, même au milieu d'épreuves et de difficultés uniques, nous sommes véritablement bénis. Cette conférence générale nous a apporté un déversement des richesses et de la joie qui découle du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous nous sommes réjouis de la vision du Père et du Fils qui a été le point de départ du rétablissement. Nous nous sommes remémorés la parution miraculeuse du Livre de Mormon, dont l'objectif principal est de témoigner de Jésus-Christ et de sa doctrine. Nous avons été régénérés par la réalité joyeuse de la révélation donnée aux prophètes ainsi qu'à nous personnellement. Nous avons entendu de précieux témoignages de l'expiation infinie de Jésus-Christ et de sa résurrection littérale. Et nous avons appris d'autres vérités de la plénitude de son évangile révélé à Joseph Smith, après que Dieu le Père a déclaré à ce prophète nouvellement appelé « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le ». Notre connaissance du rétablissement de la prêtrise et de ses clés a été confirmée. Nous avons été renforcés dans notre détermination de faire connaître l'Église rétablie du Seigneur par l'emploi de son nom correct, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et nous avons été invités à nous unir par le jeûne et la prière avec pour objectif de limiter les effets présents et futurs d'une pandémie mondiale dévastatrice. Ce matin, nous avons été inspirés par le prophète vivant du Seigneur qui nous a présenté une déclaration historique du rétablissement. Nous confirmons sa déclaration, à savoir que les personnes qui étudient le message du rétablissement à l'aide de la prière et agissent avec foi auront la bénédiction d'obtenir leur propre témoignage de sa divinité et de son but de préparer le monde pour la seconde venue promise de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout cela fait partie d'un plan divin dont le but est de permettre aux enfants de Dieu d'être exaltés et de devenir semblables à lui. Appelé dans les Écritures le grand plan du bonheur, le plan de rédemption et le plan de salut, ce plan, révélé par le rétablissement, a vu le jour lors d'un conseil dans les cieux. En tant qu'esprit, nous désirions acquérir la vie éternelle dont jouissaient nos parents célestes. Jusque-là, nous avions progressé autant que nous le pouvions sans l'expérience de la condition mortelle dans un corps physique. Pour que nous puissions faire cette expérience, Dieu, le Père, a planifié la création de cette terre. Dans cette vie terrestre, il était prévu que nous serions souillés par le péché et rencontrerions l'opposition nécessaire à notre progression spirituelle. Nous serions aussi soumis à la mort physique. Afin de nous racheter de la mort et du péché, le plan de notre Père Céleste prévoyait un Sauveur. Sa résurrection nous rachèterait tous de la mort, et son sacrifice expiatoire paierait le prix requis pour que nous soyons tous purifiés du péché aux conditions prescrites pour notre progression. L'expiation de Jésus-Christ est essentielle au plan du Père. Dans le conseil des cieux, tous les enfants d'esprit de Dieu ont eu connaissance du plan du Père, y compris de ses conséquences mortelles et de ses épreuves, de l'aide offerte par Dieu, ainsi que de la destinée glorieuse qu'il prévoit. Nous en avons vu la fin dès le début. Les myriades de mortels nés sur cette terre ont choisi le plan du Père et se sont battus pour lui dans le combat céleste qui a suivi. Beaucoup ont aussi fait des alliances avec le Père concernant ce qu'il ferait dans la condition mortelle. De façon qu'ils n'ont pas été révélés, nos actes dans le monde des esprits ont influé sur notre situation dans la condition mortelle. Je vais maintenant résumer certains des éléments principaux du plan du Père qui affectent notre parcours dans la condition mortelle et dans le monde des esprits où l'on accède ensuite. Le but de la condition mortelle et de la progression qui peut se poursuivre dans l'au-delà est de permettre à la postérité de Dieu de devenir semblable à lui. C'est là le désir de notre Père Céleste pour tous ses enfants. Pour accomplir cette joyeuse destinée, les lois éternelles requièrent que nous devenions des êtres purifiés par l'expiation de Jésus-Christ afin de pouvoir demeurer en la présence du Père et du Fils et jouir des bénédictions de l'exaltation. Comme le Livre de Mormon l'enseigne, il invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté. Il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Il se souvient des païens et tous sont pareils pour Dieu, tant le juif que le gentil. Le plan divin, qui a pour but de nous permettre de devenir les personnes que nous sommes destinés à devenir, exige que nous choisissions de rejeter l'opposition du mal qui pousse les mortels à agir en contradiction avec les commandements de Dieu et de son plan. Le plan requiert aussi que nous soyons sujets à d'autres formes d'opposition terrestre, notamment de subir les conséquences des péchés d'autrui ou encore de naître avec des défauts congénitaux. Parfois, la progression qui nous est nécessaire s'obtient mieux dans la souffrance et l'adversité que dans le confort et la tranquillité. Et cette opposition terrestre ne pourrait atteindre son objectif éternel si une intervention divine nous soulageait de toutes les conséquences adverses de la condition mortelle. Ce plan révèle notre destinée éternelle, le but et les conditions de notre parcours dans la condition mortelle et l'aide divine que nous recevrons. Les commandements de Dieu nous avertissent de ne pas nous égarer dans des situations dangereuses. Les enseignements des dirigeants inspirés guident nos pas et contiennent des promesses qui nous encouragent dans notre voyage éternel. Le plan de Dieu comporte quatre grandes assurances qui nous aideront au cours de notre voyage dans la condition mortelle. Elles nous sont toutes accordées par l'expiation de Jésus-Christ, pièce centrale du plan. Premièrement, nous avons l'assurance que parce qu'il a souffert pour les péchés dont nous nous repentons, nous pouvons en être lavés. Alors, le juge final et miséricordieux ne s'en souviendra plus. Deuxièmement, par son expiation, notre Sauveur a pris sur lui toutes les autres infirmités de la condition mortelle. Cela nous permet de lui demander la force de supporter chacun des fardeaux inévitables de la condition mortelle, personnels ou généraux, tels une guerre ou une pandémie. Le Livre de Mormon nous donne la description scripturaire la plus claire de ce pouvoir essentiel de l'expiation. Le Sauveur a pris sur lui les souffrances et les infirmités de son peuple, et il prendra sur lui ses infirmités afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache selon la chair comment secourir son peuple selon ses infirmités. Troisièmement, le Sauveur, par son expiation infinie, abolit le caractère définitif de la mort et nous offre l'assurance joyeuse que nous ressusciterons tous. Le Livre de Mormon enseigne « Or, ce rétablissement se fera pour tous, jeunes et vieux, esclaves et libres, hommes et femmes, méchants et justes, et pas un seul cheveu de leur tête ne sera perdu, mais chaque chose sera rendue à sa forme parfaite. » En cette période de Pâques, nous célébrons la réalité de la résurrection. Elle nous donne la perspective et la force nécessaires pour supporter les difficultés de la condition mortelle auxquelles chacun de nous et de nos êtres chers doit faire face, notamment les déficiences physiques, mentales ou émotionnelles innées ou que nous connaissons au cours de notre vie terrestre. Grâce à la résurrection, nous savons que ces déficiences de la condition mortelle ne sont que temporaires. L'Évangile rétabli nous assure que la résurrection nous offre la possibilité d'être avec les membres de notre famille, notre mari ou notre femme, nos enfants et nos parents. C'est pour nous un grand encouragement à nous acquitter de nos responsabilités familiales dans cette vie. Cela nous aide ici-bas à vivre ensemble dans l'amour, dans l'attente de joyeuses retrouvailles et associations dans l'au-delà. Quatrièmement, et finalement, la révélation moderne nous enseigne que notre progression ne s'arrête pas à la fin de la vie sur Terre. Nous ne disposons que de peu de révélations sur cette importante assurance. Il nous est dit que cette vie est le moment où nous devons nous préparer à rencontrer Dieu et que nous ne devons pas différer le jour de notre repentir. Néanmoins, on nous enseigne que dans le monde des esprits, l'Évangile est prêché aux méchants et à ceux qui avaient désobéi, qui avaient rejeté la vérité, et que les personnes qui y sont instruites ont la possibilité de se repentir avant le jugement dernier. Voici d'autres éléments fondamentaux du plan de notre Père Céleste. L'Évangile rétabli de Jésus-Christ nous donne une perspective unique sur des sujets tels que la chasteté, le mariage et la procréation. Il enseigne que le mariage est nécessaire à l'accomplissement de l'objectif du plan de Dieu, qu'il fournit le cadre défini par Dieu pour accueillir les humains qui naissent dans la condition mortelle et qu'il prépare les membres de la famille pour la vie éternelle. Le Seigneur a déclaré « Le mariage est institué par Dieu afin que la terre réponde au but de sa création. » Sur ce point, son plan va bien sûr à l'encontre de certaines des puissantes forces profanes qui s'expriment dans la loi et les mœurs. Le pouvoir de créer la vie sur la terre est le plus sublime que Dieu ait donné à ses enfants. Il a été ordonné de l'utiliser dans le premier commandement. Mais un autre commandement important a été donné pour en interdire le mauvais usage. Toute utilisation du pouvoir de procréation en dehors des liens du mariage est à un degré ou à un autre une dégradation et une perversion pécheresse de l'attribut le plus divin de l'homme et de la femme. L'Évangile rétabli met l'accent sur la loi de chasteté en raison du rôle de notre pouvoir de procréation dans l'accomplissement du plan de Dieu. En ce bicentenaire de la première vision qui a marqué le commencement du rétablissement, nous connaissons le plan du Seigneur et nous sommes encouragés par les 2 siècles de bénédiction que nous avons reçus grâce à son Église rétablie. En cette année 2020, nous possédons ce qu'un professionnel de santé appelle une acuité visuelle de 10 sur 10 des événements du passé. Cependant, lorsque nous regardons vers l'avenir, notre vision est beaucoup moins certaine. Nous savons, 200 ans après le rétablissement, qu'il y a maintenant dans le monde des esprits beaucoup d'ouvriers qui ont acquis de l'expérience dans la condition mortelle et qui prêchent. Nous savons aussi que nous disposons maintenant de beaucoup plus de temples pour accomplir les ordonnances éternelles pour les personnes qui se repentent et acceptent l'Évangile du Seigneur d'un côté ou de l'autre du voile. Tout cela concourt à l'accomplissement du plan de notre Père Céleste. L'amour de Dieu est si grand que, hormis ceux qui choisissent délibérément de devenir des fils de perdition, il a prévu un destin de gloire pour tous ses enfants. Nous savons que le Sauveur reviendra et qu'un millénaire où règnera la paix viendra refermer le chapitre terrestre du plan de Dieu. Nous savons également qu'il y aura différentes résurrections, celle des justes et celle des pécheurs, puis que chacun comparaîtra au jugement dernier après sa résurrection. Nous serons jugés selon nos actes, les désirs de notre cœur et le genre de personnes que nous serons devenus. En conséquence de ce jugement, tous les enfants de Dieu iront dans un royaume de gloire pour lequel ils se seront qualifiés par leur obéissance et où ils se sentiront à leur place. Celui qui en jugera est notre Sauveur Jésus-Christ. Son omniscience lui donne la connaissance parfaite de tous nos actes et de tous nos désirs dont nous nous sommes ou non repentis, que nous n'avons pas corrigés ou qui sont justes. C'est pourquoi, après avoir été jugés par lui, nous confesserons tous que ses jugements sont justes. Pour conclure, je vous exprime la conviction qui m'a été donnée par de nombreuses lettres et par l'examen de nombreuses demandes de réintégration dans l'Église après retrait du nom ou après apostasie. Beaucoup de nos membres ne comprennent pas ce plan du salut, qui répond à la plupart des questions relatives à la doctrine et aux règles inspirées de l'Église rétablie. Nous, qui connaissons le plan de Dieu et avons fait alliance d'y prendre part, avons la responsabilité indéniable d'enseigner ces vérités et de faire tout notre possible pour les annoncer aux autres, chacun selon notre propre situation dans ce monde. Je témoigne de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui rend tout cela possible. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Any requests to return to the church after name removal or apostasy. Many of our members do not fully understand this plan of salvation, which answers most questions about the doctrine and inspired policies of the restored church. We who know God's plan and who have covenanted to participate have a clear responsibility to teach these truths and do all that we can to further them for others and in our own circumstances in mortality. I testify of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who makes it all possible. In the name of Jesus Christ, amen.
Today, I will speak
aujourd'hui,
on continuing
je vais parler de la révélation continue donnée aux prophètes et de la révélation personnelle continue qui sont un guide pour notre vie. Parfois, nous recevons des révélations même lorsque nous ne connaissons pas les desseins du Seigneur. En juin 1994, peu avant l'appel de Jeffrey R. Holland à l'apostolat, j'ai vécu une belle expérience au cours de laquelle j'ai eu la révélation qu'il serait appelé. J'étais représentant régional et je ne voyais aucune raison pour laquelle cette connaissance m'était donnée. Mais nous étions collègues missionnaires en Angleterre au début des années 60 et j'éprouvais une grande affection pour lui. J'ai considéré cette expérience comme une tendre miséricorde. Ces dernières années, je me suis demandé si le Seigneur était en train de me préparer à être le collègue en second au sein des 12 d'un incroyable missionnaire qui avait été mon collègue en second lorsque nous étions jeunes missionnaires. Parfois, j'exhorte les jeunes missionnaires à être gentils avec leurs collègues en second, parce qu'il se peut qu'un jour, ceux-ci deviennent leurs premiers collègues. J'ai le témoignage ferme que cette Église rétablie est dirigée par notre Sauveur Jésus-Christ. Il sait qui appeler comme apôtre et dans quel ordre le faire. Il sait aussi comment préparer le chef de ses apôtres à être le prophète et le président de l'Église. Ce matin, nous avons eu la bénédiction d'entendre notre prophète bien-aimé, Russell M. Nelson, présenter au monde une déclaration remarquable concernant le bicentenaire du rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. Cette déclaration historique du président Nelson explique clairement que l'Église de Jésus-Christ doit son origine, son existence et son orientation pour l'avenir au principe de la révélation continue. La nouvelle déclaration est une communication d'un père aimant à ses enfants. À une époque plus ancienne, le président Kimball a exprimé ce que je ressens aujourd'hui. Il a dit « Ce dont nous devrions être le plus reconnaissant, c'est que les cieux soient effectivement ouverts et que l'Église rétablie de Jésus-Christ soit fondée sur la pierre de la révélation. La révélation continue est en effet au cœur même de l'Évangile du Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ. » Le prophète Enoch a vu l'époque à laquelle nous vivons. Le Seigneur a annoncé à Enoch qu'il régnerait une grande méchanceté et il a prophétisé que de grandes tribulations se produiraient. Néanmoins, le Seigneur a promis « Mais je préserverai mon peuple, je ferai descendre la justice des cieux et je ferai monter la vérité de la terre pour rendre témoignage de mon Fils unique. » Ezra Taft Benson a enseigné avec une grande force que le Livre de Mormon, clé de voûte de notre religion, est sorti de la terre en accomplissement de ce que le Seigneur a déclaré à Enoch. Le Père et le Fils, les anges et les prophètes qui sont apparus à Joseph Smith, ont reçu du ciel l'ordre de rétablir les pouvoirs nécessaires au royaume. Joseph Smith, le prophète, a reçu révélation sur révélation. Certaines ont été mentionnées durant cette conférence. De nombreuses révélations reçues par le prophète Joseph ont été conservées pour nous dans les doctrines et alliances. Tous les ouvrages canoniques de l'Église contiennent la volonté du Seigneur pour nous dans cette dernière dispensation. En plus de ces magnifiques écritures fondamentales, nous avons la bénédiction d'avoir la révélation continue donnée aux prophètes vivants. Les prophètes sont des agents mandatés du Seigneur, dotés de l'autorité de parler en son nom. Certaines révélations ont une immense importance. D'autres nous permettent de mieux comprendre les vérités divines essentielles et fournissent des directives pour notre époque. Nous sommes extrêmement reconnaissants de la révélation qu'a reçue le président Kimball le 8 juin 1978, offrant les bénédictions de la prêtrise et du temple à tous les frères de l'Église qui en sont dignes. J'ai servi avec de nombreux membres des 12 qui étaient présents et ont participé à la réunion lorsque cette révélation précieuse a été reçue. Lors de conversations privées, tous ont confirmé l'inspiration spirituelle puissante que le président Kimball a reçue dans l'unité avec eux. Beaucoup ont rapporté que c'était la révélation la plus puissante qu'ils avaient jamais reçue, que ce soit avant ou après ce moment. Ceux d'entre nous qui servent actuellement au sein du Collège des 12 apôtres ont eu la bénédiction de voir des révélations importantes reçues par les derniers prophètes. Le président Nelson a agi en agent autorisé du Seigneur, particulièrement en ce qui concerne les révélations reçues en vue d'aider les familles à faire de leur foyer un sanctuaire de foi, de rassembler Israël dispersé des deux côtés du voile et de bénir les membres dotés grâce aux ordonnances sacrées du Temple. Lorsqu'à la conférence générale d'octobre 2018, des changements importants ont été annoncés en vue de bénir nos foyers, j'ai témoigné que lors des délibérations du Conseil de la Première Présidence et du Collège des 12 apôtres au Temple, et après que notre prophète bien-aimé a prié le Seigneur de nous donner une révélation, tous les participants ont reçu une confirmation puissante. À cette époque, d'autres révélations concernant les ordonnances sacrées du Temple ont été reçues, mais n'ont pas été annoncées ou mises en place. Cette directive a commencé par une révélation donnée individuellement à notre prophète, le président Nelson, et par une confirmation douce et puissante à toutes les personnes participant à ce processus. Le président Nelson a expressément impliqué les sœurs qui président les organisations de la société de secours, des jeunes filles et de la primaire. La dernière directive donnée dans le Temple à la Première Présidence et au Collège des 12 apôtres était extrêmement spirituelle et puissante. Chacun de nous a su qu'il avait reçu la pensée, la volonté et la voix du Seigneur. Je déclare en toute solennité que la révélation continue a été reçue et l'est actuellement par les canaux établis par le Seigneur. Je témoigne que la nouvelle déclaration que le président Nelson a présentée ce matin est destinée à bénir tout le monde. Nous déclarons aussi que nous désirons sincèrement être réunis avec ceux dont le témoignage chancelle, qui ne sont pas pratiquants ou dont le nom a été enlevé des registres de l'Église. Nous aspirons à nous faire un festin avec vous, des paroles du Christ, à la table du Seigneur, à apprendre ce que nous devons tous faire. Nous avons besoin de vous. L'Église a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous. Nous formulons la prière sincère que vous vous joigniez à nous pour adorer le Sauveur du monde. Nous savons que certains d'entre vous ont peut-être été victimes d'offenses, de méchanceté ou d'autres comportements qui ne sont pas chrétiens. Nous savons aussi que la foi de certains d'entre vous a été soumise à des difficultés qui ne sont pas pleinement prises en compte, comprises ou résolues. La foi de certains de nos membres les plus loyaux et fidèles a été mise à l'épreuve pendant un temps. J'aime le récit authentique de W.W. Phelps qui avait délaissé l'Église et témoigné contre Joseph Smith devant un tribunal au Missouri. Après s'être repenti, il a écrit à Joseph « Je connais ma situation, vous la connaissez et Dieu la connaît, et je veux être sauvé si mes amis acceptent de m'aider. » Joseph lui a pardonné, l'a remis au travail et lui a écrit avec amour « Les amis du début sont enfin de nouveaux amis. » Frères et sœurs, quelle que soit votre situation, sachez que l'Église et ses membres vous accueilleront quand vous reviendrez. La révélation personnelle est accessible à quiconque cherche humblement à être guidé par le Seigneur. Elle est aussi importante que la révélation donnée au prophète. La révélation personnelle et spirituelle donnée par le Saint-Esprit fait que des millions de personnes ont reçu le témoignage nécessaire pour être baptisées et confirmées membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. La révélation personnelle est la grande bénédiction que nous recevons après le baptême lorsque nous sommes sanctifiés par la réception du Saint-Esprit. Je me souviens d'une révélation spirituelle spéciale que j'ai reçue quand j'avais 15 ans. Mon cher frère demandait au Seigneur comment répondre à notre Père bien-aimé qui ne voulait pas qu'il parte en mission. J'ai moi aussi prié avec une intention sincère et j'ai reçu une révélation personnelle de la véracité de l'Évangile. La révélation personnelle est basée sur des vérités spirituelles que l'on reçoit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le révélateur et le témoin de toute vérité, notamment de celle concernant le Sauveur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas réellement savoir que Jésus est le Christ. Sa mission essentielle est de rendre témoignage du Père et du Fils, de leur titre et de leur gloire. Le Saint-Esprit peut influencer chacun de manière puissante. Cette influence ne sera constante que si la personne se fait baptiser et reçoit le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sert aussi d'agent purificateur dans le processus du repentir et du pardon. L'Esprit communique de manière merveilleuse. Le Seigneur a fait la belle description suivante. « Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » C'est là l'esprit de révélation. Son impact peut être incroyablement puissant, mais il se manifeste souvent discrètement sous la forme d'une petite voix douce. Les Écritures contiennent de nombreux exemples de la manière dont l'Esprit agit sur notre esprit, notamment en emplissant notre esprit de paix, en occupant nos pensées, en éclairant notre esprit et même en parlant à notre esprit. Voici les principes qui nous préparent à recevoir la révélation. Priez pour être guidé spirituellement. Avec révérence et humilité, nous devons chercher, demander et être patients et soumis. Nous préparer à recevoir l'inspiration. Cela nécessite que nous soyons en harmonie avec les enseignements du Seigneur et en accord avec ses commandements. Prendre la Sainte Cène dignement. Lorsque nous le faisons, nous témoignons à Dieu et faisons alliance avec lui, que nous prenons sur nous le nom de son Fils divin, que nous nous souviendrons toujours de lui et que nous respecterons ses commandements. Ces principes nous préparent à recevoir, à reconnaître et à comprendre les inspirations et les directives du Saint-Esprit. Cela comprend les choses paisibles qui apportent la joie et la vie éternelle. Notre préparation spirituelle est grandement améliorée lorsque nous étudions régulièrement les Écritures et les vérités de l'Évangile et quand nous méditons dans notre esprit sur l'inspiration que nous recherchons. Mais souvenez-vous d'être patient et de faire confiance au calendrier du Seigneur. C'est un Seigneur omniscient qui nous guide quand il choisit délibérément de nous former. Le Saint-Esprit nous donnera aussi des révélations dans nos appels et dans nos tâches. D'après mon expérience, le plus souvent, nous sommes guidés spirituellement de manière significative lorsque nous essayons de faire du bien à notre prochain en nous acquittant de nos responsabilités. Je me rappelle que lorsque j'étais jeune évêque, j'ai reçu l'appel désespéré de jeunes mariés peu de temps avant de devoir prendre l'avion pour me rendre à un rendez-vous d'affaires. Avant qu'ils arrivent, j'ai plaidé avec le Seigneur de me faire savoir comment je pouvais les aider. J'ai reçu la révélation concernant la nature de leurs problèmes et la réponse que je devais donner. Cela m'a permis de remplir les responsabilités sacrées de mon appel d'évêque, malgré le peu de temps dont je disposais. Les évêques du monde entier vivent le même genre d'expérience que la mienne. Lorsque j'étais président de Pieux, j'ai reçu non seulement d'importantes révélations, mais aussi des réprimandes personnelles qui étaient nécessaires pour que j'accomplisse les desseins du Seigneur. Je vous assure que nous pouvons tous être guidés par des révélations si nous œuvrons humblement dans la vigne du Seigneur. La plupart de ces révélations viennent du Saint-Esprit. Parfois, et dans certains cas, elles viennent directement du Seigneur. Je témoigne personnellement que c'est vrai. C'est le président et prophète de l'Église qui reçoit les directives pour l'ensemble de l'Église. Nous, les apôtres modernes, avons l'honneur de travailler avec notre prophète actuel, le président Nelson, et de l'accompagner dans ses déplacements. Je vais paraphraser ce que Wilford Woodruff a dit au sujet de Joseph Smith, le prophète, et qui est également vrai du président Nelson. J'ai vu l'Esprit de Dieu agir sur lui, les révélations que Jésus-Christ lui donnait et l'accomplissement de ces révélations. Mon humble prière aujourd'hui est que chacun de nous recherche la révélation continue pour qu'elle soit un guide dans notre vie et suive l'Esprit tandis que nous adorons Dieu, le Père, au nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, dont je rends témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Guidance for the church as a whole comes to the president and prophet of the church. We as modern apostles have had the privilege of working and traveling with our current prophet, President Nelson. I paraphrase what Wilford Woodruff said about the prophet Joseph Smith. It is equally true of President Nelson. I have seen the workings of the Spirit of God with him and the revelations of Jesus Christ unto him and the fulfillment of those revelations, end quote. My humble plea today is that each of us will seek continuing revelation to guide our lives and follow the Spirit as we worship God the Father in the name of our Savior, Jesus Christ, of whom I bear witness in the name of Jesus Christ.
Amen.
Back in the mid-90s, during my college years, I was
dans les années 90, durant mes études à l'université, j'ai fait partie de la 4e brigade des pompiers de Santiago, au Chili. Lorsque j'étais de garde la nuit, je résidais dans la caserne. Vers la fin de l'année, on m'a demandé d'être de garde le soir du Nouvel An, car ce soir-là, il y avait presque toujours des urgences. Vraiment ? Ai-je répondu, surpris. Mes collègues et moi attendions à la caserne quand à minuit, des feux d'artifice ont commencé à être tirés dans le centre-ville de Santiago. Nous nous sommes pris dans les bras les uns des autres en nous souhaitant la bonne année. Soudain, les sirènes de la caserne ont retenti, nous indiquant qu'il y avait une urgence. Nous avons pris notre équipement et avons sauté dans le camion. En chemin vers le lieu d'intervention, alors que nous croisions la foule de gens qui célébraient le Nouvel An, j'ai constaté qu'ils étaient désinvoltes et insouciants. Ils étaient détendus et profitaient de cette chaude nuit d'été. Pourtant, non loin de là, les personnes que nous nous dépêchions de secourir étaient en grand danger. Cette expérience m'a permis de me rendre compte que même si notre vie est par moments relativement facile, nous rencontrerons tous un jour des difficultés et des tempêtes inattendues qui repousseront nos limites. Ces tempêtes pourront être des difficultés physiques, mentales, familiales, personnelles et professionnelles, des catastrophes naturelles et d'autres situations qui pourront mettre notre vie en danger. Face à ces tempêtes, nous ressentons souvent du désespoir ou de la peur. Russell M. Nelson a déclaré « La foi est le remède à la peur ». Et il s'agit de la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ayant vu les tempêtes qui affectent la vie des gens, j'en suis venu à la conclusion que quelles que soient les difficultés qui s'abattent sur nous, qu'il y ait ou non une solution à nos problèmes, il n'y a qu'un seul refuge. Et c'est le même pour tous les types de tempêtes. L'unique refuge fourni par notre Père Céleste est notre Seigneur Jésus-Christ et le pouvoir de son expiation. Aucun de nous n'échappera à ces tempêtes. Et l'amant, prophète du livre de Mormon, nous a enseigné ce qui suit. Souvenez-vous que c'est sur le roc de notre Rédempteur qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir sur vous, pour vous entraîner en bas jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâti, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Robert D. Hales, qui a dû endurer des tempêtes personnelles, a déclaré « La souffrance est universelle. Notre réaction à la souffrance est individuelle. » La souffrance peut nous entraîner dans deux directions. Elle peut être une expérience qui nous fortifie, nous purifie quand nous l'affrontons avec foi, ou elle peut être une force destructrice dans notre vie si nous n'avons pas foi au sacrifice expiatoire du Christ. Pour bénéficier du refuge que Jésus-Christ et le pouvoir de son expiation nous offrent, nous devons avoir foi en lui, une foi qui nous permettra de nous élever au-delà des souffrances liées à une perspective limitée et terrestre. Il nous a promis qu'il allégera nos fardeaux si nous allons à lui dans tout ce que nous faisons. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quelqu'un a dit, pour qui a la foi, aucune explication n'est nécessaire. Pour qui ne l'a pas, aucune explication n'est possible. Cependant, nous avons une compréhension limitée de ce qui arrive ici-bas et bien souvent, nous n'en connaissons pas la raison. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Que suis-je censé apprendre? Quand les réponses nous échappent, alors les paroles adressées par le Sauveur à Joseph Smith, tandis qu'il se trouvait dans la prison de Liberty, prennent tout leur sens. « Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. » Bien que beaucoup de gens croient en Jésus-Christ, la question fondamentale est de savoir si nous le croyons et si nous croyons ce qu'il nous dit et nous demande de faire. Certains de nous se demandent peut-être « Que sait Jésus-Christ de ce qui m'arrive ? Comment sait-il ce dont j'ai besoin pour être heureux ?» En vérité, c'est de notre Rédempteur et Intercesseur dont il s'agit, celui dont Ésaïe le prophète parlait quand il a dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. » Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'apôtre Pierre nous a également dit, au sujet du Sauveur, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Même si son propre martyre était proche, les paroles de Pierre n'étaient pas remplies de peur ni de pessimisme. Au contraire, il a enseigné aux saints à se réjouir, même s'ils étaient attristés par diverses épreuves. Il nous a recommandé de nous souvenir que l'épreuve de notre foi éprouvée par le feu aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra et le salut de notre âme. Pierre a ajouté, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Le président Nelson a enseigné, « Les saints peuvent être heureux en toutes circonstances. Lorsque notre vie est centrée sur le plan de salut de Dieu et sur Jésus-Christ et son Évangile, nous pouvons connaître la joie quoi qu'il arrive ou n'arrive pas dans notre vie. La joie vient de lui et grâce à lui. Il est la source de toute joie. » Bien entendu, c'est plus facile à dire quand nous ne sommes pas dans la tempête que de le vivre et de le mettre en application lorsque nous y sommes. Mais moi, votre frère, j'espère que vous pouvez sentir dans mes paroles sincères à quel point il est précieux de savoir que Jésus-Christ et le pouvoir de son expiation constituent le refuge dont nous avons tous besoin, quelles que soient les tempêtes qui soufflent dans notre vie. Je sais que nous sommes tous les enfants de notre Père Céleste, qui nous aime et que nous ne sommes pas seuls. Je vous invite à venir et à voir qu'il peut alléger vos fardeaux et être le refuge que vous cherchez. Venez et aidez les autres à trouver le refuge auquel ils aspirent tant. Venez et restez à nos côtés dans ce refuge qui vous permettra de résister aux tempêtes de la vie. Je sais, sans aucun doute, que si vous venez, alors vous verrez, vous aiderez et vous resterez. Le prophète Alma a témoigné des principes suivants à son fils et l'amant. Quiconque place sa confiance en Dieu sera soutenu dans ses épreuves et ses difficultés et ses afflictions et sera élevé au dernier jour. Le Sauveur lui-même a dit, « C'est pourquoi que votre cœur soit consolé, car toute chair est entre mes mains. Soyez calme et sachez que je suis Dieu. C'est pourquoi ne craignez pas, même pas la mort, car votre joie n'est pas pleine en ce monde, mais elle l'est en moi. » Le cantique « Va, ne crains pas » qui a touché mon cœur à maintes reprises contient un message de réconfort pour notre âme. En voici les paroles. « Va, ne crains pas, car se rapproche l'heure où près du Père à jamais nous vivrons. Qu'un jour béni, la paix en nous demeure, chassant douleur, angoisse et déception. Va, ne crains pas, dans une vie meilleure, bientôt les pleurs, les maux, nous oublierons. » Tandis que nous affrontons les tempêtes de la vie, je sais que si nous donnons le meilleur de nous-mêmes et cherchons refuge en Jésus-Christ et en son expiation, alors nous aurons la bénédiction de recevoir le soulagement, le réconfort, la force, la tempérance et la paix que nous recherchons, ayant au cœur la certitude qu'à la fin de notre épreuve terrestre, nous entendrons le Maître nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. In the name of Jesus Christ, Amen.
We invite you,
nous vous invitons,
wherever you may be,
où que vous soyez, à vous joindre au chœur pour chanter « Je sais qu'il vit mon Rédempteur ». Le numéro 73 dans le recueil des cantiques français. Après ce cantique, nous entendrons Dieter Uhrdorf du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Whitney Clayton de la présidence des 70 et de Todd Christofferson du Collège des Douze Apôtres.
This is the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
President Nelson, thank you for this
chaque semaine,
wonderful...
les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours du monde entier rendent leur culte à notre Père Céleste bien-aimé, le Dieu et le Roi de l'univers, et à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Nous méditons sur la vie et les enseignements de Jésus-Christ, la seule âme sans péché qui ait jamais vécu, l'agneau immaculé de Dieu. Nous prenons la Sainte Cène en souvenir de son sacrifice et reconnaissons qu'il est le centre de notre vie. Nous l'aimons et nous l'honorons. Du fait de son amour profond et éternel, il a souffert et est mort pour vous et moi. Il a ouvert les portes de la mort, renversé le mur qui séparait amis et êtres chers, apporté l'espérance aux désespérés, la guérison aux malades et la délivrance aux captifs. Nous lui consacrons notre cœur, notre vie et notre dévotion quotidienne. C'est pourquoi nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ et nous prêchons le Christ afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Cependant, être disciple de Jésus-Christ implique bien plus que parler du Christ et prêcher le Christ. Le Sauveur lui-même a rétabli son Église pour nous soutenir dans nos efforts pour devenir plus semblable à lui. L'Église de Jésus-Christ et des Saints des Derniers Jours est structurée de manière à offrir des possibilités de s'entraîner à vivre les bases de la vie de disciple. Par notre participation à l'Église, nous apprenons à reconnaître les murmures du Saint-Esprit et à y réagir. Nous cultivons l'habitude de tendre la main aux autres avec compassion et gentillesse. C'est un effort de toute une vie et cela exige de l'entraînement. Les sportifs accomplis passent d'innombrables heures à s'entraîner pour acquérir les bases de leur discipline. Les infirmiers, les utilisateurs de réseaux, les ingénieurs nucléaires et même les championnes de travaux d'aiguille n'acquièrent leurs compétences qu'en s'entraînant diligemment dans leur domaine. Quand j'étais commandant de bord, je formais souvent des pilotes à l'aide d'un simulateur de vol, un engin sophistiqué qui reproduisait les conditions de vol. Non seulement il aidait les élèves à apprendre les rudiments du pilotage, mais il leur permettait également de vivre les événements inattendus qu'ils pourraient rencontrer lorsqu'ils prendraient vraiment les commandes d'un avion et de savoir comment réagir. Il en va de même des disciples de Jésus-Christ. En prenant une part active à l'Église de Jésus-Christ et à la grande variété de possibilités qu'elle offre, vous serez mieux préparés à toutes les situations changeantes de la vie, quelles qu'elles soient. En tant que membres de l'Église, on nous recommande de nous immerger dans les paroles de Dieu qui nous sont transmises par ses prophètes anciens et modernes. En priant humblement et sincèrement notre Père Céleste, nous apprenons à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Nous acceptons les appels à servir, à enseigner, à planifier, à prendre soin d'autrui et à administrer. Cela permet à notre esprit, à notre intellect et à notre personnalité de progresser. Cela nous prépare à contracter et à respecter des alliances sacrées qui seront un bienfait pour nous dans cette vie et dans la suivante. Nous invitons tous les enfants de Dieu du monde entier à nous rejoindre dans cette grande entreprise. Venez et voyez. Même pendant cette période éprouvante de coronavirus, venez nous rencontrer en ligne. Rencontrez nos missionnaires en ligne. Découvrez par vous-même cette Église. Lorsque ce moment difficile sera passé, venez nous rencontrer dans nos foyers et dans nos lieux de culte. Nous vous invitons à venir aider. Venez servir avec nous en prenant soin des enfants de Dieu, en marchant sur les pas du Sauveur et en rendant ce monde meilleur. Venez prendre votre place. Vous nous rendrez plus forts et vous deviendrez meilleurs, plus gentils et plus heureux aussi. Votre foi deviendra plus profonde et plus résiliente, davantage capable de supporter les perturbations et les épreuves inattendues de la vie. Comment commencer ? Il y a de nombreuses façons possibles. Nous vous invitons à lire le Livre de Mormon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le lire sur le site churchofjesuschrist.org ou télécharger l'application du Livre de Mormon. Le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ et va de pair avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous aimons toutes ces Écritures saintes et nous en tirons des enseignements. Nous vous invitons à passer du temps sur le site commentochrist.org pour découvrir ce que les membres de l'Église enseignent et croient. Invitez des missionnaires à parler avec vous en ligne ou dans l'intimité de votre foyer quand c'est possible. Ils ont un message d'espoir et de guérison. Ces missionnaires sont nos fils et filles précieux qui servent en de nombreux endroits du monde en donnant de leur temps et à leurs frais. Dans l'Église de Jésus-Christ, vous trouverez une famille de personnes qui ne sont pas si différentes de vous. Vous en trouverez qui ont besoin de votre aide et qui veulent vous aider dans vos efforts pour devenir la meilleure version de vous-même, celle pour laquelle Dieu vous a créé. Vous pensez peut-être, j'ai commis des fautes. Je ne suis pas sûr de pouvoir jamais me sentir à ma place dans l'Église de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas s'intéresser à quelqu'un comme moi. Jésus le Christ, bien qu'il soit le roi des rois, le Messie, le Fils du Dieu vivant, se soucie sincèrement de chacun des enfants de Dieu. Et cela, quelle que soit leur situation, qu'ils soient pauvres ou riches, quel que soit leur degré d'imperfection ou de réussite. Pendant sa vie, dans la condition mortelle, le Sauveur servait tout le monde, les personnes heureuses et accomplies, brisées et perdues, et les désespérés. Souvent, les gens qu'il servait n'étaient pas éminents, beaux ou riches. Souvent, ceux qu'il édifiait avaient peu à lui offrir en retour, à part de la reconnaissance, un cœur humble et le désir d'avoir la foi. Si Jésus a passé sa vie terrestre à servir ses plus petits, ne les aimerait-il pas aujourd'hui? N'y a-t-il pas une place dans son Église pour tous les enfants de Dieu, même pour ceux qui se sentent indignes, oubliés ou seuls? Il n'y a pas de seuil de perfection à atteindre pour se qualifier afin de recevoir la grâce de Dieu. Vos prières n'ont pas besoin d'être faites d'une voix forte, ni éloquente, ni grammaticalement correcte pour atteindre les cieux. En vérité, Dieu ne fait pas de favoritisme. Les choses auxquelles le monde attache de la valeur n'en ont aucune pour lui. Il connaît votre cœur et il vous aime, quel que soit votre titre, votre valeur financière nette ou le nombre de personnes qui vous suivent sur Instagram. En inclinant notre cœur vers notre Père Céleste et en nous approchant de lui, nous le sentirons s'approcher de nous. Nous sommes tous ses enfants bien-aimés, même ceux d'entre nous qui le rejettent, même ceux qui, comme l'enfant obstiné et indiscipliné, se mettent en colère contre Dieu et son Église, font métaphoriquement leur valise et partent en claquant la porte, proclamant qu'ils s'en vont et ne reviendront jamais. Quand un enfant part en claquant la porte de chez lui, il ne remarque peut-être pas les parents inquiets qu'il observe par la fenêtre. Il regarde tendrement leur fils ou leur fille s'en aller, espérant que leur enfant précieux apprendra quelque chose de cette expérience déchirante et verra peut-être la vie avec un nouveau regard et finira par rentrer à la maison. Il en est de même avec notre Père Céleste aimant. Il attend notre retour. Votre Sauveur, les yeux remplis de larmes d'amour et de compassion, attend votre retour. Même lorsque vous vous sentirez loin de Dieu, il vous verra. Il aura compassion de vous et accourra pour vous serrer dans ses bras. Venez prendre votre place. Nous sommes des pèlerins marchant sur le chemin de la condition mortelle en quête du sens de la vie et de la vérité suprême. Souvent, tout ce que nous voyons est le chemin juste devant nous. Nous ne pouvons pas voir où vont mener les virages de la route. Notre Père Céleste aimant ne nous a pas donné toutes les réponses. Il attend de nous que nous élucidions de nombreuses choses par nous-mêmes. Il attend de nous que nous croyions, même lorsque cela est difficile. Il attend de nous que nous nous redressions et que nous fassions preuve d'un peu de détermination, d'un peu de courage et fassions un pas de plus en avant. C'est ainsi que nous apprenons et progressons. Voudriez-vous honnêtement qu'on vous explique tout en détail ? Voudriez-vous honnêtement avoir la réponse à chaque question ? Connaître l'itinéraire détaillé de chaque destination ? Je crois que la plupart d'entre nous se fatigueraient vite de ce genre de micro-gestion céleste. Nous apprenons les leçons importantes de la vie par l'expérience, en apprenant grâce à nos erreurs, en nous repentant et en nous rendant compte par nous-mêmes que l'iniquité n'a jamais été le bonheur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort afin que nos fautes ne nous condamnent pas et n'arrêtent pas définitivement notre progression. Grâce à lui, nous pouvons nous repentir et nos fautes peuvent devenir des tremplins qui nous permettent d'accéder à une plus grande gloire. Vous n'avez pas à faire cette route seul. Notre Père Céleste ne nous laisse pas errer dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle, au printemps de 1820, il est apparu avec son fils Jésus-Christ à un jeune homme, Joseph Smith. Réfléchissez-y un instant. Le Dieu de l'univers est apparu à l'homme. C'est la première de nombreuses rencontres de Joseph avec Dieu et d'autres êtres célestes. Nombre des paroles que ces êtres divins lui ont adressées sont rapportées dans les Écritures de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elles sont aisément accessibles. N'importe qui peut les lire et apprendre par lui-même le message que Dieu nous destine à notre époque. Nous vous invitons à les étudier par vous-même. Joseph Smith était relativement jeune lorsqu'il a reçu ces révélations. La plupart lui sont parvenues avant qu'il ait 30 ans. Il manquait d'expérience. Et aux yeux de certaines personnes, il devait sembler peu qualifié pour être le prophète du Seigneur. Et pourtant, le Seigneur l'a appelé, suivant un modèle que nous retrouvons tout au long des Saintes Écritures. Dieu n'a pas attendu de trouver quelqu'un de parfait pour rétablir l'Évangile. S'il l'avait fait, il serait encore en train d'attendre. Joseph ressemblait beaucoup à vous et à moi. Malgré ses fautes, Dieu l'a utilisé pour accomplir ses grands desseins. Le président Monson répétait souvent ce conseil. Le Seigneur qualifie ce qu'il appelle. L'apôtre Paul a raisonné avec les saints de Corinthe. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu utilise les faibles et les simples pour réaliser ses desseins. Cette vérité témoigne que c'est le pouvoir de Dieu et non celui de l'homme qui accomplit son œuvre sur la terre. Lorsque Dieu est apparu à Joseph Smith, il a présenté son fils Jésus-Christ et a dit « Écoute-le ». Joseph a passé le reste de sa vie à l'écouter et à le suivre. Comme pour Joseph, notre condition de disciple commence quand nous prenons la décision d'écouter le Sauveur Jésus-Christ. Si vous désirez le suivre, rassemblez votre foi et chargez-vous de sa croix. Vous découvrirez qu'en effet, vous avez votre place dans son Église, une place chaleureuse et accueillante, où vous pouvez vous joindre à la grande quête du bonheur et de la condition de disciple. J'espère qu'en cette année de bicentenaire de la première vision, en méditant et en étudiant le rétablissement de l'Église de Jésus-Christ, nous prendrons conscience qu'il ne s'agit pas simplement d'un événement historique. Vous et moi jouons un rôle essentiel dans cette grande histoire qui se poursuit. Quel est votre rôle et le mien ? C'est d'apprendre à connaître Jésus-Christ, d'étudier ses paroles, de le suivre en participant activement à cette grande œuvre. Je vous invite à venir prendre votre place. Il n'est pas nécessaire que vous soyez parfait. Il suffit que vous ayez le désir de faire grandir votre foi et de vous rapprocher de Dieu chaque jour. Notre rôle est d'aimer et de servir Dieu et d'aimer et de servir ses enfants. Si vous faites cela, il vous entourera de son amour, de joie et de conseils sûrs, même dans les situations les plus graves, tout au long de cette vie et dans l'au-delà. J'en témoigne. Je vous donne ma bénédiction et j'exprime ma reconnaissance et mon amour profond à chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.
As we contemplate and learn of the restoration of the Church of Jesus Christ, we will realize that it is not just a historical event. You and I play a crucial part in this great continuing story. What then is your and my part? It is to learn of Jesus Christ, to study his words, to hear him, and to follow him by actively participating in this great work. I invite you to come and belong. You don't have to be perfect. You only have to have a desire to develop your faith and draw near to him each day. Our part is to love and serve God and to love and serve God's children. As you do so, God will encircle you with his love, joy, and certain guidance through his life and this life. Even under the most serious circumstances and even beyond. Of this I testify and leave you my blessing in deep gratitude and love for each one of you. In the sacred name of our Savior, our Master, in the name of Jesus Christ. Amen.
Récemment, un panneau d'affichage à Salt Lake City a retenu mon attention. Il faisait la publicité d'une entreprise de mobilier et de décoration intérieure. Il indiquait simplement « Au service des meilleurs foyers de Salt Lake City ». Le message était accrocheur. Que sont les meilleurs foyers? J'ai réfléchi, en pensant particulièrement aux enfants que ma femme, Cathy, et moi avons élevés et à ceux qu'ils élèvent à leur tour aujourd'hui. Comme les parents du monde entier, nous nous sommes souciés d'eux et avons prié pour eux. Nous le faisons encore. Nous voulons sincèrement ce qu'il y a de mieux pour eux. Comment peuvent-ils, eux et leurs enfants, vivre dans les meilleurs foyers? J'ai pensé au foyer des membres de l'Église que Cathy et moi avons eu le privilège de visiter. Nous avons été invités dans des foyers en Corée, au Kenya, aux Philippines, au Pérou, au Laos et en Lettonie. Je vais faire 4 observations sur les meilleurs foyers. D'abord, du point de vue du Seigneur, les meilleurs foyers reposent entièrement sur les qualités de chacun des individus qui y demeurent. Le mobilier, le revenu ou le statut social des personnes qui le possèdent n'influent pas de manière importante ou durable sur la qualité du foyer. La plus belle caractéristique d'un foyer est l'image du Christ qui se reflète dans les personnes qui y résident. Le plus important est la décoration intérieure de l'âme des habitants, pas le bâtiment lui-même. Ces qualités du Christ s'acquièrent dans la suite des temps, par des progrès intentionnels sur le chemin des alliances. Les vertus chrétiennes ornent la vie des personnes qui s'efforcent d'être bonnes. Elles emplissent le foyer de la lumière de l'Évangile, que le sol soit en terre battue ou en marbre. Même si vous êtes la seule personne du foyer à suivre l'injonction de rechercher tout ceci, vous pouvez contribuer à l'ameublement spirituel de votre foyer. Nous suivons le conseil du Seigneur, nous organiser, préparer tout ce qui est nécessaire et établir une maison de prière en organisant, préparant et établissant notre vie spirituelle. Pas nos biens immobiliers. Si nous suivons patiemment le chemin des alliances du Sauveur, notre foyer deviendra une maison de gloire, une maison d'ordre et une maison de Dieu. Deuxièmement, les habitants des meilleurs foyers prennent le temps d'étudier chaque jour les Écritures et les paroles des prophètes vivants. Le président Nelson nous a invités à transformer et à réaménager notre foyer par l'étude de l'Évangile. Son invitation tient compte du fait que les meilleurs foyers abritent le travail délicat et vital de la progression personnelle et de la transformation de nos faiblesses. Le repentir quotidien est un outil de changement qui nous permet de devenir un peu plus gentils, aimants et compréhensifs. L'étude des Écritures nous rapproche du Sauveur, dont l'amour généreux et la grâce nous soutiennent dans notre développement. La Bible et le livre de Mormon racontent l'histoire de famille. Il n'est donc pas surprenant que ces ouvrages divins soient des manuels d'une valeur incomparable pour l'édification des meilleurs foyers. Il rapporte les inquiétudes de parents, les dangers de la tentation, le triomphe de la justice, les épreuves de la famine et de l'abondance, les horreurs de la guerre et les récompenses de la paix. Dans les Écritures, nous voyons encore et encore des familles réussir grâce à leur droiture et échouer en prenant d'autres chemins. Troisièmement, les meilleurs foyers suivent le plan élaboré par le Seigneur. Pour son meilleur foyer, le temple. La construction d'un temple commence par des étapes simples, le débroussaillage et le nivellement du terrain. Ces premiers efforts pour préparer le sol peuvent être comparés au respect des commandements fondamentaux. Les commandements sont les fondations sur lesquelles s'édifie une vie de disciple. Une vie droite de disciple rend ferme, constant et inébranlable, comme la structure en acier d'un temple. Cette structure stable permet au Seigneur d'envoyer son esprit pour changer notre cœur. Connaître un grand changement de cœur, c'est comme ajouter de beaux éléments à l'intérieur du temple. Lorsque nous avançons avec foi, le Seigneur nous transforme petit à petit. Nous recevons son image sur notre visage et commençons à refléter l'amour et la beauté de sa personnalité. En devenant comme lui, nous nous sentirons chez nous, dans sa maison, et il se sentira chez lui, dans la nôtre. Nous pouvons maintenir un lien fort entre notre maison et la sienne, en nous qualifiant pour recevoir une recommandation à l'usage du temple et en l'utilisant le plus souvent possible. Si nous le faisons, la sainteté de la maison du Seigneur reposera aussi sur la nôtre. Le magnifique temple de Salt Lake City se dresse près d'ici. Il a été construit entre 1853 et 1893 par les pionniers, avec des outils rudimentaires, des matériaux locaux et un travail acharné. En faisant don de leurs meilleures compétences en ingénierie, en architecture et en décoration intérieure, les premiers membres de l'Église ont créé un chef-d'œuvre reconnu par des millions de personnes. Près de 130 ans sont écoulés depuis la consécration du temple. Les principes d'ingénierie utilisés pour la conception du temple ont été remplacés par de nouvelles normes plus sûres. Ne pas améliorer l'ingénierie du temple et ne pas réparer les fragilités de la structure équivaudrait à trahir la confiance des pionniers qui ont fait de leur mieux avant de laisser aux générations suivantes le devoir d'en prendre soin. L'Église a entrepris un projet de restauration de 4 ans pour améliorer la structure du temple et renforcer sa résistance au séisme. Les fondations, les sols et les murs seront fortifiés. Les meilleures connaissances disponibles aujourd'hui en matière d'ingénierie conformeront le temple aux normes actuelles. Les changements apportés à la structure ne seront pas visibles, mais leurs effets seront réels et importants. Malgré les travaux, le bel aménagement intérieur sera préservé. Nous devrions suivre l'exemple de la rénovation du temple de Salt Lake City et prendre le temps d'évaluer notre ingénierie spirituelle, personnelle, pour nous assurer qu'elle est aux normes. Une auto-évaluation ponctuelle, accompagnée de la question « Que me manque-t-il encore ?» nous aidera à participer à l'édification du meilleur foyer. Quatrièmement, les bons foyers sont un refuge contre les tempêtes de la vie. Le Seigneur a promis que les personnes qui respecteront ses commandements prospéreront dans le pays. La prospérité qu'offre Dieu est la force d'aller de l'avant malgré les problèmes de la vie. En 2002, j'ai appris une grande leçon au sujet des problèmes. À Asunción, au Paraguay, j'ai rencontré les présidents de pieux de la ville. À cette époque, le pays faisait face à une crise financière terrible et beaucoup de membres de l'Église souffraient et n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Je n'étais pas retourné en Amérique du Sud depuis ma mission et je n'étais jamais allé au Paraguay. Je ne servais dans cette présidence d'interrégion que depuis quelques semaines. Craignant de ne pas être capable de guider ces présidents de pieux, je leur ai demandé de me dire ce qui allait bien dans leurs pieux. Le premier président de pieux m'a parlé des choses positives. Le suivant aussi. Puis, il a mentionné quelques difficultés. Lorsque nous sommes arrivés au dernier président de pieux, il a uniquement exposé une série de problèmes épineux. En écoutant les présidents de pieux expliquer l'ampleur de la situation, j'étais de plus en plus inquiet, presque désespéré, ne sachant que dire. Alors que le dernier président de pieux terminait son intervention, une pensée m'est venue à l'esprit. Frère Clayton, pose-leur cette question. Président, parmi les membres de votre pieu, qui payent une dîme complète, font des offrandes de jeûne généreuses, remplissent leurs appels dans l'église, visitent chaque mois les familles en tant qu'instructeur au foyer ou instructrice visiteuse, font la soirée familiale, étudient les écritures, prient en famille quotidiennement. Combien ont des difficultés auxquelles ils ne peuvent faire face sans l'intervention de l'Église pour résoudre leurs problèmes? Conformément à cette impression, je leur ai posé la question. Ils m'ont regardé dans un silence étonné et ont dit « pues ninguno », c'est-à-dire « eh bien, aucun ». Ils m'ont dit alors qu'aucun des membres qui faisaient toutes ces choses ne rencontrait des difficultés qu'ils ne pouvaient surmonter seuls. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient dans les meilleurs foyers. Leur vie fidèle leur donnait la force, la vision et l'aide divine nécessaires pour endurer et survivre malgré le tumulte économique de leur pays natal. Cela ne signifie pas que les justes ne tomberont pas malades, n'auront pas d'accidents, de revers professionnels, ni d'autres difficultés. La condition mortelle amène toujours des difficultés. Mais j'ai constaté, maintes et maintes fois, que les personnes qui s'efforcent d'obéir au commandement sont bénies et réussissent à avancer dans la paix et l'espérance. Ces bénédictions sont accessibles à tout le monde, partout. David a déclaré, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Où que vous viviez, quel que soit l'aspect de votre maison et votre situation familiale, vous pouvez édifier le meilleur foyer pour votre famille. L'évangile rétabli de Jésus-Christ fournit les plans de ce foyer. Le sauveur est l'ingénieur, le constructeur et le décorateur d'intérieur parfait. Son projet est la perfection et la joie éternelle de notre âme. Avec son aide aimante, votre âme peut devenir ce qu'il veut qu'elle soit et vous pouvez être la meilleure version de vous-même, le meilleur foyer. Avec gratitude, je témoigne que notre Dieu est Père à tous vie. Son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, est le Sauveur et le Rédempteur de toute l'humanité. Il nous aime parfaitement. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est le royaume de Dieu sur la terre. Des prophètes et des apôtres vivants la guident aujourd'hui. Le livre de Mormon est vrai. Un des fruits du rétablissement est la connaissance que les familles peuvent vivre ensemble dans une joie parfaite dans les meilleurs foyers. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
The Book of Mormon is true. The restored gospel of Jesus Christ is the perfect blueprint for establishing finest homes. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen. Throughout this general conference,
tout au long de cette conférence générale, nous avons donné des messages et chanté avec joie des cantiques sur l'accomplissement du rétablissement de toutes choses prophétisé depuis longtemps, sur la réunion de toutes choses en Christ, sur le retour de la plénitude de l'Évangile, de la prêtrise et de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, qui font partie de ce que nous appelons le rétablissement. Mais le rétablissement n'est pas seulement pour ceux d'entre nous qui s'en réjouissent aujourd'hui. Les révélations de la première vision n'étaient pas destinées à Joseph Smith seulement, mais sont offertes comme une lumière et une vérité à quiconque manque de sagesse. Le livre de Mormon appartient à l'humanité. Les ordonnances de la prêtrise pour le salut et l'exaltation ont été préparées pour chaque personne, y compris celles qui ne sont plus dans la condition mortelle. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et ses bénédictions sont destinées à tous les gens qui les veulent. Le don du Saint-Esprit est destiné à tout le monde. Le rétablissement appartient au monde et son message est particulièrement urgent aujourd'hui. C'est pourquoi il est très important de faire connaître ces choses aux habitants de la terre, afin qu'ils sachent qu'il n'y a aucune chair qui puisse demeurer en la présence de Dieu si ce n'est par les mérites et la miséricorde et la grâce du Saint Messie qui donne sa vie selon la chair et la reprend par le pouvoir de l'Esprit, afin de réaliser la résurrection des morts étant le premier à ressusciter. Depuis le jour où Samuel Smith, frère du prophète, a rempli sa sacoche d'exemplaires du livre de Mormon fraîchement imprimé, et s'en est allé à pied faire connaître le nouveau livre d'écriture, les saints œuvres sans relâche, pour faire connaître ces choses aux habitants de la terre. En 1920, David Mackay, qui était alors membre du Collège des Douze Apôtres, a débuté une tournée mondiale d'un an des missions de l'Église. En mai 1929, il s'est rendu dans un petit cimetière de Fagalii, au Samoa, sur la tombe bien entretenue de trois petits-enfants. La fille et les deux fils de Thomas et Sarah Hilton. Ces enfants, dont l'aîné avait 2 ans, sont morts à la fin du 19e siècle, à l'époque où le jeune couple était en mission. Avant de quitter l'Utah, frère Mackay avait promis à Sarah, à leur veuve, et qui n'avait jamais eu la possibilité de retourner au Samoa, qu'il se rendrait sur la tombe de ses enfants. Frère Mackay lui a envoyé une lettre disant « Sœur Hilton, dans un silence des plus éloquents, vos trois petits-enfants poursuivent la noble œuvre missionnaire que vous avez commencée voilà près de 30 ans. » Puis il a ajouté quelques vers de sa propre composition. Par des mains aimantes, leurs yeux mourants furent fermés. Par des mains aimantes, leurs petits membres furent arrangés. Par des mains étrangères, leurs modestes tombes furent ornées. Par des inconnus, ils furent honorés, et par des inconnus, ils furent pleurés. Ce n'est qu'une histoire parmi des milliers, des centaines de milliers qui parlent du temps, des trésors et des vies sacrifiées au cours des deux derniers siècles pour faire connaître le message du rétablissement. Notre aspiration d'atteindre chaque nation, famille, langue et peuple est intacte aujourd'hui, comme en témoignent les plus de 68 000 jeunes hommes, jeunes femmes et couples qui font une mission à plein temps. Les membres de l'Église qui répondent à l'invitation de Philippe de venir et de voir, et les millions de dollars consacrés chaque année à soutenir cet effort parmi dans le monde. L'invitation que nous lançons est sans contrainte, mais nous espérons que les gens ne pourront pas y résister. Pour que ce soit le cas, je crois que 3 choses sont nécessaires. Premièrement, votre amour. Deuxièmement, votre exemple. Troisièmement, l'utilisation du Livre de Mormon. Notre invitation ne doit pas être une question d'intérêt personnel, mais une expression d'amour désintéressé. Cet amour, connu comme étant la charité, l'amour pur du Christ, nous pouvons l'avoir si nous le demandons. Il nous est demandé, commandé même, de prier le Père de toute l'énergie de notre cœur, afin d'être rempli de cet amour. Pour illustrer cela, je vais raconter une expérience rapportée par sœur Lanette Ho Ching, qui sert actuellement aux côtés de son mari Francis Ho Ching, président de la mission d'Apia au Samoa. Sœur Ho Ching a dit « Il y a des années, notre jeune famille a emménagé dans une petite maison à Laie, à Hawaï. L'abri de voiture de notre maison avait été converti en studio dans lequel vivait un homme du nom de Jonathan. Jonathan avait été notre voisin dans un autre endroit. Ayant le sentiment que ce n'était pas une coïncidence si le Seigneur nous avait rapprochés, nous avons décidé d'être plus ouverts concernant nos activités et notre appartenance à l'Église. Jonathan appréciait notre amitié et aimait passer du temps avec notre famille. Il aimait que l'on parle de l'Évangile, mais n'était pas intéressé de s'engager dans l'Église. Le temps passant, Jonathan est devenu l'oncle Jonathan pour nos enfants, tandis que notre famille continuait de grandir, l'intérêt de Jonathan pour nos événements familiaux augmentait. Nos invitations aux fêtes de fin d'année, aux anniversaires, aux fêtes de l'école et aux activités de l'Église se sont étendues aux soirées familiales et au baptême des enfants. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Jonathan. Il avait besoin d'aide. Il était diabétique et avait attrapé une infection grave au pied qui nécessitait une amputation. Notre famille et les membres de la paroisse du quartier l'ont accompagné dans ces moments d'épreuve. Nous nous sommes relayés à l'hôpital et il a reçu les bénédictions de la prêtrise. Pendant sa rééducation, nous avons nettoyé son appartement avec l'aide des sœurs de la société de secours. Les frères de la prêtrise ont installé une rampe devant sa porte d'entrée et des barres d'appui dans la salle de bain. Quand Jonathan est rentré chez lui, il a été submergé par l'émotion. Il a recommencé à suivre les leçons missionnaires. La veille du Nouvel An, il m'a appelé et m'a demandé « Que faites-vous pour le réveillon du Nouvel An ?» Je lui ai rappelé notre fête annuelle. Mais il a répondu « Je voudrais que vous veniez à mon baptême. Je veux commencer la nouvelle année de la bonne façon. » Après 20 années d'invitation à venir voir, à venir aider et à venir y rester, cette âme précieuse était prête à se faire baptiser. Je vous présente la deuxième condition nécessaire pour réussir à faire connaître le message du rétablissement en posant la question suivante. Qu'est-ce qui rendra notre invitation attrayante pour quelqu'un? N'est-ce pas vous l'exemple de votre vie? Beaucoup des gens qui ont entendu et accepté le message du rétablissement ont été au début attirés par ce qu'ils ont perçu chez les membres de l'Église de Jésus-Christ. Peut-être était-ce la façon dont ils traitaient les autres, quelque chose qu'ils n'ont dit ou n'ont pas dit, la constance dont ils ont fait preuve dans des situations difficiles ou simplement leur attitude. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons échapper au fait que nous devons comprendre et vivre les principes de l'Évangile rétabli de notre mieux pour que nos invitations soient attirantes. C'est souvent ce que l'on appelle aujourd'hui l'authenticité. Si l'amour du Christ demeure en nous, les gens sauront que notre amour pour eux est authentique. Si la lumière du Saint-Esprit rayonne en nous, il ravivera la lumière du Christ en eux. Ce que vous êtes donne de la crédibilité à votre invitation à venir découvrir la joie de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ. La troisième condition nécessaire est l'utilisation abondante de l'instrument de conversion que le Seigneur a conçu pour cette dernière dispensation de l'Évangile, le Livre de Mormon. Il est la preuve tangible de l'appel de prophète de Joseph Smith et la preuve convaincante de la divinité et de la résurrection de Jésus-Christ. La manière dont il expose le plan de rédemption du Père est sans égale. Lorsque vous faites connaître le Livre de Mormon, vous faites connaître le rétablissement. Quand Jason Olson était adolescent, des membres de sa famille et d'autres personnes l'avertissaient constamment du danger de devenir chrétien. Cependant, il avait deux bons amis qui étaient membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec qui il discutait souvent de religion. Ses amis, Shea et Dave, ont réfuté respectueusement tous les arguments donnés à Jason contre la foi en Jésus-Christ. À la fin, ils lui ont donné un exemplaire du Livre de Mormon en disant « Ce livre répondra à tes questions. Lis-le, s'il te plaît. » Il a accepté le livre avec réticence et l'a mis dans son sac à dos, où il est resté pendant plusieurs mois. Il ne voulait pas le laisser chez lui, où sa famille risquait de le voir, et il ne voulait pas décevoir Shea et Dave en le leur rendant. Finalement, il a décidé que la solution était de brûler le livre. Un soir, un briquet dans une main et le Livre de Mormon dans l'autre, il s'apprêtait à mettre le feu au livre lorsqu'il a entendu une voix dans sa tête lui dire « Ne brûle pas mon livre ». Surpris, il s'est arrêté. Puis se disant qu'il avait imaginé la voix, il allait rallumer le briquet. Il a entendu de nouveau la voix en son esprit lui dire « Va dans ta chambre et lis mon livre ». Il a rangé son briquet et retourné dans sa chambre, a ouvert le Livre de Mormon et a commencé à lire. Il a continué de le faire jour après jour, souvent jusque très tard dans la nuit. Après avoir terminé le livre et prié, Jason a vécu une expérience qu'il a notée. J'étais rempli de l'esprit, de la tête aux pieds. Je me sentais rempli de lumière. C'était l'expérience la plus joyeuse que j'avais jamais eue de ma vie. Il a désiré se faire baptiser et plus tard, il est lui-même devenu missionnaire. Il va probablement sans dire que malgré notre amour authentique et sincère, la plupart, sinon la majorité de nos invitations à connaître le message du rétablissement seront déclinées. Mais n'oubliez pas ceci, tout le monde est digne de cette invitation. Tous sont pareils pour Dieu. Le Seigneur est content de tous les efforts que nous faisons, quel qu'en soit le résultat. Si quelqu'un refuse, ce n'est pas une raison pour arrêter de le fréquenter. Un manque d'intérêt aujourd'hui peut très bien se transformer en de l'intérêt plus tard. Quoi qu'il en soit, notre amour demeure constant. Le rétablissement a vu le jour après des épreuves et des sacrifices intenses. Mais gardons ce sujet pour un autre jour. Nous nous réjouissons aujourd'hui des fruits du rétablissement, dont l'un des plus grands est le pouvoir de lier de nouveau sur la terre et dans les cieux. Comme l'a exprimé le président Hinckley il y a des années, si toutes les peines, tous les efforts et toute la douleur du rétablissement n'avaient produit rien d'autre que le pouvoir de scellement de la Sainte Prêtrise qui lie les familles à jamais, cela aurait largement valu tout ce que cela a coûté. La promesse suprême du rétablissement est la rédemption par l'intermédiaire de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est en fait la preuve qu'il possède le pouvoir de racheter tous ceux qui vont à lui, de les racheter de la tristesse, de l'injustice, du regret, du péché et même de la mort. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Dans une semaine, ce sera Pâques. Nous nous souvenons toujours que le Christ a souffert et est mort pour expier nos péchés. Et nous célébrons ce dimanche merveilleux, le jour du Seigneur, où il est ressuscité des morts. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, le rétablissement a un sens, notre vie sur terre a un sens, et au bout du compte, notre existence même a un sens. Joseph Smith, le grand prophète du rétablissement, a offert le témoignage primordial pour notre époque du Christ ressuscité en disant « Il vit, car nous le vîmes et ceux à la droite de Dieu ». J'ajoute humblement mon témoignage à celui de Joseph et à celui de tous les apôtres et prophètes qui ont vécu avant lui et à tous les apôtres et prophètes qui lui ont succédé. Que Jésus de Nazareth est le Messie promis, le Fils unique de Dieu et le Rédempteur ressuscité de toute l'humanité. La résurrection du Christ rend cette promesse certaine. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Of our Lord and Savior Jesus Christ. Christ's resurrection makes his promises sure. In the name of Jesus Christ, amen.
At the conclusion
à la fin de cette conférence, nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche, pour permettre à la conférence d'avoir lieu dans ces circonstances particulières. Nous remercions tous les orateurs et exprimons notre gratitude pour la musique inspirante. Le dernier orateur de cette session sera Russell Nelson, notre prophète bien-aimé. À la suite de son discours, nous aurons le cantique de clôture « Seigneur, merci pour le prophète ». Qui a été enregistré par le Tabernacle Choir à Temple Square et six autres chœurs du monde entier. Une fois que les chœurs auront chanté les trois couplets, nous vous invitons, où que vous soyez, à vous joindre au chœur pour rechanter le premier couplet. Lynn Roberts, 70, fera ensuite la prière de clôture et la conférence sera ajournée.
My beloved brothers and sisters,
as we come to the end of this à la fin de cette conférence historique, nous exprimons notre reconnaissance au Seigneur. La musique a été sublime et les messages inspirants. Au cours de cette conférence, nous avons vécu de nombreux temps forts. En ce bicentenaire, nous avons commémoré le rétablissement avec l'invocation du Hosanna. Nous avons dévoilé un nouveau symbole indiquant notre foi au Seigneur Jésus-Christ et permettant de reconnaître les informations et la documentation officielle de l'Église. Nous avons appelé à une journée mondiale de jeûne et de prière afin que la pandémie actuelle soit maîtrisée, les soignants protégés, l'économie fortifiée et la vie ramenée à la normale. Nous observerons ce jeûne le vendredi saint 10 avril. Et quel magnifique vendredi saint ce sera. Dimanche prochain est le dimanche de Pâques, où nous célébrerons de nouveau l'expiation et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à son expiation, il offre le don de la résurrection à toutes les personnes qui ont vécu sur la terre. Et il accorde le don de la vie éternelle à toutes celles qui se seront qualifiées par leur fidélité aux ordonnances et aux alliances faites dans ces saints temples. Les nombreux éléments inspirants de cette conférence générale d'avril 2020 et de la Semaine Sainte qui débute maintenant peuvent se résumer à deux mots décrétés par Dieu. Écoute-le. Nous prions pour que l'attention que vous avez portée sur notre Père Céleste, qui a prononcé ces mots, et sur son Fils bien-aimé Jésus-Christ, surpasse dans vos souvenirs tout ce qui s'est passé. Nous prions pour que vous recommenciez à véritablement écouter, méditer et appliquer les paroles du Sauveur. Je vous promets que si vous le faites, vous aurez moins de crainte et plus de foi. Je vous remercie de votre désir de faire de votre foyer un véritable sanctuaire de foi, où l'Esprit du Seigneur peut demeurer. Notre programme d'étude de l'Évangile, « Viens et suis-moi », continuera de vous apporter des bienfaits. Vos efforts soutenus dans cette entreprise, même dans les moments où vous avez l'impression de ne pas bien y arriver, changeront votre vie, celle de votre famille et le monde. Nous serons fortifiés et deviendrons des disciples du Seigneur encore plus vaillants, qui le défendent partout où il se trouve. Parlons maintenant des temples. Nous avons 168 temples consacrés dans le monde entier. D'autres en sont à divers stades de planification et de construction. Lorsque l'on annonce le projet de construire un nouveau temple, il devient partie intégrante de notre histoire sacrée. Il peut sembler étrange d'annoncer de nouveaux temples alors que tous nos temples sont fermés pour quelque temps. Il y a plus d'un siècle, Wilford Woodruff avait prévu une telle situation. Comme le rapporte sa prière de consécration du temple de Salt Lake City, offerte en 1893. Dernièrement, certains d'entre vous ont peut-être vu des extraits de cette prière remarquable sur les réseaux sociaux. Écoutez ces supplications d'un puissant prophète de Dieu. Lorsque ton peuple n'aura pas la possibilité de pénétrer dans cette sainte maison et sera opprimé et en difficulté, environné de problèmes, et tournera le visage vers ta sainte maison et te demandera de le délivrer, de l'aider, d'user de ton pouvoir en sa faveur. Nous t'implorons de poser un regard miséricordieux sur lui depuis ta sainte habitation et d'entendre ses cris. Ou lorsque les enfants de ton peuple, dans les années à venir, seront séparés pour quelque raison que ce soit de cet endroit, et qu'ils t'invoqueront des profondeurs de leurs afflictions et de leurs chagrins, de leur accorder ton secours et ta délivrance. Nous te supplions humblement d'entendre leurs cris et de leur accorder les bénédictions qu'ils te demandent. Frères et sœurs, pendant cette période de détresse, qui est la nôtre, où les temples sont fermés, vous pouvez quand même puiser dans le pouvoir de vos alliances et de votre dotation du temple, si vous honorez vos alliances. S'il vous plaît, profitez de ce moment où les temples sont fermés pour continuer de mener une vie digne du temple ou pour devenir digne de vous y rendre. Parlez du temple avec votre famille et vos amis. Du fait que Jésus-Christ est au centre de tout ce que nous faisons dans le temple, en pensant davantage au temple, vous penserez davantage à lui. Étudiez et priez pour mieux comprendre le pouvoir et la connaissance dont vous avez été doté ou dont vous serez doté un jour. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer la construction de 8 nouveaux temples aux endroits suivants. Bahia Blanca, Argentine. Tallahassee, Floride. Lubumbashi, République démocratique du Congo. Pittsburgh, en Pennsylvanie. Benin City, au Nigeria. Syracuse, en Utah. Dubaï, aux États Arabes Unis. À Shanghai, la République populaire de Chine. Les architectes de l'Église travailleront à ces projets pour que ces temples s'harmonisent et seront un ajout formidable pour ces localités. Le temple à Dubaï vient à leur invitation dont nous sommes reconnaissants. Le contexte du temple de Shanghai est très important. Pendant plus d'une vingtaine d'années, le pape de Chine ont eu le temple de Hong Kong. Ils l'ont attendu. Et en 2019, ce temple a été fermé pour rénovation à Shanghai. Un lieu de réunion permettra aux membres de l'Église chinoise de continuer à avoir un autre temple dans la République populaire de Chine et de faire les ordonnances pour eux-mêmes et pour leurs ancêtres. Dans chaque pays, cette Église enseigne aux membres d'obéir et de soutenir la loi. Nous enseignons l'importance de la famille, d'être de bons parents et de bons citoyens. Parce que nous respectons les lois et les règlements de la République populaire de Chine, l'Église n'envoie pas de missionnaires faire du prosélytisme là-bas. Et nous ne le ferons pas maintenant. Les Chinois expatriés continueront de se réunir séparément. Les règlements resteront les mêmes. Et on ne pourra aller au temple que par sur rendez-vous. Le temple de Shanghai ne sera pas un temple pour les touristes. Ces 8 nouveaux temples béniront leur bienfait pour de nombreuses personnes des deux côtés du voile de la mort. Les temples sont le couronnement du rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ. Dans sa bonté et sa générosité, Dieu rapproche les bénédictions du temple de ses enfants partout. Je sais qu'au fur et à mesure de la poursuite du rétablissement, Dieu continuera de révéler beaucoup de choses grandes et importantes concernant son royaume ici-bas. Ce royaume est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Chers frères et sœurs, je vous aime. En cette période de tension et d'incertitude, en vertu de l'autorité dont je suis investi, je vous donne une bénédiction apostolique. Je vous bénis avec la paix et une foi accrue au Seigneur. Je vous bénis avec le désir de vous repentir et de devenir chaque jour un peu plus semblable à lui. Je vous bénis pour que vous sachiez que Joseph Smith est le prophète du rétablissement de l'évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude. Si l'un de vous ou de vos proches est malade, je vous donne une bénédiction de guérison. Selon la volonté du Seigneur, je vous bénis et j'exprime une fois de plus mon amour pour chacun de vous. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
We thank Thee, O God, for a promise. our loving and kind Father in
heaven. Notre Père céleste bien-aimé. Nous sommes vraiment reconnaissants pour le prophète qui nous guide et qui nous dirige en ces derniers jours. Nous sommes reconnaissants pour la révélation continue à travers des prophètes voyants et révélateurs et de pouvoir être témoins du rétablissement qui continue et en ces derniers jours. Nous sommes reconnaissants pour les messages inspirants que nous avons reçus. Nous sommes reconnaissants pour l'Assemblée solennelle, pour cette nouvelle déclaration que nous puissions être inspirés par sa lecture et pour tous ces nouveaux temples qui viennent d'être annoncés. Père, nous prions que nous puissions nous souvenir de tes tendres miséricordes qui ont été manifestées tout au cours de l'histoire de l'humanité et que tu as aidé toutes les personnes dans les tribulations qu'ils ont pu rencontrer. Alors que nous reconnaissons tous ensemble toutes les leçons que nous pouvons retirer de ces difficultés, nous regardons vers l'avenir et à travers le jeûne que nous allons faire ce vendredi, qui commencera cette semaine de Pâques. Nous te demandons avec foi en Jésus-Christ et que son pouvoir guérisseur et que des miracles vont suivre. Père, alors que nous ajournons cette conférence, nous prions pour que l'Esprit puisse remplir notre cœur pour aller de l'avant et de suivre Jésus-Christ et surtout de pouvoir l'écouter. Cette invitation que tu as lancée à chacun de nous et que nous avons entendue aujourd'hui par notre prophète. Nous prions pour ces bénédictions et nous te remercions au nom sacré et en saint nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 190th...
Vous venez d'assister à la 190e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Tabernacle Choir at Temple Square. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.